première fois depuis 2021 avant de continuer à rêver plus grand.
Paris Saint-Germain, Barcelone, coup d'envoi à 19h, temps universel et on continue d'en parler tout de suite.
Radio G 101.5 FM.
Topette, du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre Benoît.
Et depuis hier, vous êtes nombreux et nombreuses à nous demander comment faire pour que l'on vous souhaite vous aussi votre anniversaire à l'antenne. Alors Mathéo, la démarche à suivre, c'est quoi ?
Eh ben, il faut nous contacter sur Instagram et puis on se fera un plaisir de vous le souhaiter. Voilà,
tout simplement. Allez, demain, on sera avec les folies et Courrier 49 pour parler des courants folies, bien évidemment, comme assez régulièrement, une fois par mois. Ce soir, on est en accordéon, en chant, en parole, en slam, en tout ce qu'on veut. On va être auprès de la nature, on va se reconnecter, on va être vivant avec Annick Sébron de la compagnie À Travers Champs, accompagnée d'Étienne Boidron, accordéoniste. Il y a l'accordéon en studio, on va avoir un petit aperçu tout à l'heure du spectacle accordéon voix, bien évidemment une ode à la nature. C'est annoncé comme ça, en tournée dans tous les villages de l'Anjou, ou presque, du 21 avril au 22 septembre. On va partir en trek aussi tout à l'heure, on aura un instant ciné et la minute sport. Et Topette, ça commence.
Topette sur le 101.5 avec Pierre Benoît.
Avant toute chose, on part en actu avec toi Mathéo. Mathéo, un important réseau de cocaïne démantelé.
Éric Bouillard, le procureur de la République de la ville d'Angers, l'a annoncé hier dans un communiqué. Fin mars, un important réseau de trafic de cocaïne venu du Suriname et de Guyane ont été démantelés. Ce sont les enquêteurs de la brigade des stupéfiants de la division de la criminalité organisée spécialisée d'Angers qui se sont chargés de la sécession de ce réseau. Des investigations qui ont commencé en début d'année 2023 et qui ont donc permis un an plus tard d'aboutir à l'interpellation de 7 personnes. Elles sont âgées de 21 à 55 ans, sous surveillance depuis des mois. Leur arrestation était couplée à la saisie de 1,2 kg de cocaïne transportée dans une mule venant du Suriname. Valeur estimée à 120 000 euros. Éric Bouillard parle d'un mode opératoire très classique avec pour clientèle les habitants des Pays de la Loire. Le 26 mars, 5 de ces 7 personnes ont été présentées devant le magistrat instructeur saisi du dossier. Affaire à suivre.
Une nouvelle panne d'électricité qui a touché des milliers d'Angevins.
À partir de 10h ce matin, plus de 32 000 clients ont perdu le courant à Angers et ses alentours, plus précisément dans les quartiers de la Roseraie, à Orgemont, à Saint-Jean et au Pont-de-Cé. En cause, une perte d'alimentation du côté de RTE, affirme Philippe Tulou, directeur d'agence Enedis dans les colonnes du Courrier de l'Ouest. Aucune information complémentaire sur ce qui a causé cette perte, une coupure qui a également perturbé les transports en commun angevins. Les feux tricolores ne fonctionnaient plus dans certaines zones, obligeant l'arrêt temporaire des lignes A, B et C. Sous les coups de 11h, tout semble être revenu à la norme.
Une agression sexuelle qui aurait eu lieu au stade Raymond Coppa ce week-end.
Ce sont de lourdes révélations dont on fait part le COP de la Butte via un communiqué publié hier. Dans ce dernier, on y apprend qu'une supportrice du SCO aurait été agressée sexuellement lors d'une rencontre opposant Angers à Laval samedi dernier. Un jeune homme serait intervenu pour mettre fin à cette agression. Le groupe de supporters indique avoir identifié l'individu à l'origine de l'acte. Des informations transmises ensuite au club qui confirme avoir reçu le signalement. Du côté du procureur de la République, Éric Bouillard, on regrette le mode opératoire, lui qui a appris les faits en même temps que tout le monde. Il estime qu'un tel acte ne doit pas être dénoncé sous la forme d'un communiqué de presse, mais directement dans un poste de police ou auprès du parquet. Il ajoute qu'à ce stade, aucune plainte n'a encore été recensée.
Un jeudi mitigé, laissant entrevoir un week-end ensoleillé.
Et oui, la fin de semaine résonnera comme une redécouverte progressive du soleil. Demain, le temps sera nuageux en début de journée, puis laissera place à quelques fines éclaircies. Les températures iront de 11 degrés dans la matinée à 19 dans l'après-midi. Côté trafic, des travaux ont actuellement lieu rue de la Rivière, proche du cimetière de l'Est. Des ralentissements sont donc à prévoir.
Je sais pas où il y a des travaux du coup. La Réveillère, voilà, c'est la rue qui est juste à côté de l'avenue Montaigne. Allez, accordéons-nous ce soir dans Topette.
L'invité de Topette sur Radio G.
Bah, c'est une entrée en matière comme une autre pour annoncer le spectacle vivant. Bonsoir Étienne.
Bonsoir.
Et bonsoir Annick.
Bonsoir.
Annick, de retour au micro de Topette. Annick Sébron de la compagnie À Travers Champs. On t'avait entendu pour parler de Ici, Là-bas, avec le t'es en résidence avec Pierre. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, de savoir comment ça s'est passé. Mais ce soir, tu es là pour nous parler de vivant. Alors moi, je l'ai écrit tout en majuscule. Est-ce que c'est le l'orthographe officielle
exact.
De la, voilà, l'Académie française a validé. Accordéon voix, c'est une ode à la nature. Donc l'idée, c'est de faire vibrer la conscience de la vie dans chacune des choses. Un spectacle qui est donc entre vous deux, entre toi Étienne et toi Annick, qui peut être joué auprès d'un arbre, en salle. L'idée, c'est vraiment d'être proche des gens, proche des choses, proche de tout ce qui voilà, tout ce qui appelle à nos émotions, nos affects. Et d'ailleurs, Étienne, tu nous proposeras peut-être, t'es venu avec la bête, hein, c'est ça?
Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je ne m'en sépare jamais, donc de toute façon, il est là avec moi et je le tiens par la ficelle.
J'espère que tu te déplaces en voiture parce que c'est un sacré engin quand même. C'est, il paraît que c'est le plus gros accordéon qu'on puisse trouver sur le marché.
C'est une belle bête, oui. C'est une belle voilà. Bête.
Chromatique, comme on dit.
Chromatique, exactement.
Voilà, pour les musiciens, musiciennes aguerris, vous savez de quoi on parle. On va commencer, nous, à parler de la compagnie à travers champs. Peut-être avant tout ça, Annick, pour représenter un petit peu la compagnie, où elle est, ce qu'elle fait, dans quel cadre vient s'inscrire ce spectacle vivant, du coup.
Eh bien, cette compagnie, elle s'est implantée à Chanzeau. Alors, aujourd'hui, c'est Chemillé-en-Anjou. Chanzeau, mon village de toujours. Et cette compagnie, elle est née de mon désir d'associer mon envie d'être sur les planches et mon envie de parler des pieds sur terre, d'avoir une meilleure connaissance et un lien plus fort avec, au début, le végétal principalement, et puis petit à petit, au fil des créations, le vivant dans son ensemble. C'est vraiment mon sujet depuis le début.
Et ça tombe bien, puisque le vivant reprend vie, justement, actuellement, avec le printemps. C'est peut-être pour ça que la programmation des spectacles commence en avril. On va en développer tout ça, on va parler aussi de votre collaboration, comment vous travaillez, quels textes ont été choisis, est-ce que ce sont des textes originaux, des compositions originales. Mais avant, pour reparler de là-bas, dont on avait parlé avant, Annick, peut-être...
En février dernier.
Voilà, en février dernier, c'était une résidence artistique avec Pierre, la musique aussi, hein, c'était un petit peu la même configuration d'une certaine façon.
Un duo aussi, ouais.
Comment ça s'était passé, cette restitution au lycée Dufresne?
Eh bien, c'était très très fort, émotionnellement, c'était très intense. Les élèves ont bien performé sur le plateau, aussi bien le groupe théâtre que le groupe de percussionnistes avec Pierre. Ils étaient tous très très fiers et le public présent a fait des super retours aux élèves. Je pense que ça va résonner encore chez eux pendant tout le reste de leur année scolaire. Et puis nous, on a présenté une heure quasiment de lecture au fil des collectages qu'on avait fait et puis à partir du texte qui existait déjà. On a fait un beau travail de réécriture, c'était très très chouette.
Et pour y avoir assisté, c'est vrai qu'il y avait une très très bonne énergie, qu'elle soit sur scène ou dans le public, il y avait une très bonne énergie. On a senti tout, voilà, cette semaine qui avait été passée tous ensemble. Peut-être que ça se réitérera, en tout cas on se tiendra informé.
Eh ben, on se tient prêt en tout cas.
On se tient prêt. Revenons à Vivant, j'aimerais entendre ton regard Étienne, toi, sur comment tu présenterais ce spectacle, appelons-le comme ça, même si c'est une configuration un peu plus extraordinaire, si c'est dehors, mais ça reste un spectacle. Comment tu présentes Vivant, toi?
Une reprise de conscience avec la nature qui nous entoure, je pense, ouais. Enfin, moi, ça m'a fait cet effet-là, en fait. On est entouré d'arbres, de fleurs, etc., d'herbes. Et on n'a pas conscience, en fait, d'être entouré d'une beauté pure, en fait. Et cette nature, elle est fragile. Et on se demande comment chacun, à son niveau, on peut faire pour apporter un peu de cette protection. Voilà, nous sommes artistes. On s'est dit que le meilleur moyen pour nous de reprendre connexion avec l'environnement qui nous entoure, ça passe par la poésie, par la musique. Et moi, c'est vraiment comme ça que je le conçois, ce spectacle-là, c'est reprendre vraiment une connexion avec notamment les arbres, qui sont quand même je sais pas comment dire, c'est nos cousins, en fait, voilà.
Hein, c'est la famille.
C'est la famille, et sans eux, on serait pas grand-chose, en fait, voilà. Donc, protégeons-les, et je trouve que Vivant, à la fin du spectacle, moi ça m'a fait cet effet là vraiment. J'ai vraiment repris conscience de ce qui m'entourait autour de moi et me dire en fait je suis vivant, mais je suis vivant grâce à tout ce qui m'entoure, voilà.
Le cadre est posé en tout cas. Tout à l'heure, on aura la chance d'avoir un extrait d'un des titres, des sons, des compositions. Et alors peut-être un mot sur le travail, votre collaboration ensemble, Annick, avec Étienne. Mmh. C'est l'historique d'un mot. Hein.
Ouais.
C'est de longue date. C'est pour ce spectacle, il y a déjà eu des.
Alors pour moi, c'est 2019. Je contacte Étienne avec quelques textes que je ressors de mes écrits. Parce que j'ai écrit quasiment tous les spectacles que la compagnie à travers champs a créé et j'ai toujours sous le coude des morceaux, des poèmes, des chansons. Et la première fois que j'ai rencontré Étienne en 2019, que je lui ai demandé si ça lui plairait de travailler avec moi, il m'a dit non. Ça m'a un peu vexée.
Bien, ça commence bien.
Il voulait pas se reconnecter à l'époque.
Il trouvait que c'était pas très clair ce que je lui proposais, donc il m'invitait à retourner dans mes textes, peut-être en écrire d'autres, à approfondir ma démarche. Pour moi, c'était un retour aux sources de retourner jouer dehors, les pieds dans l'herbe, les pieds sur terre. Parce que c'est le début de la compagnie à travers champs, des déambulations dans une ferme. Vraiment, le début de la compagnie, c'était l'envie d'emmener les gens dehors. Donc avec ce spectacle, j'ai vraiment reprécisé ça à Étienne. Je dis, je veux emmener les gens dehors. Je veux qu'on soit au pied des arbres. Je veux que les gens sentent ce qui est vivant en eux, comment ça circule. Et avec quelques nouveaux textes que j'avais écrits entre-temps, en 2020, il a dit « Ah ouais, banco ».
Là, ok, ça marche.
Là, c'est bon, tu as validé le concept. Comment on pourrait qualifier le registre musical? Si on parle du registre musical, on est sur de la chanson française, on est comment? Si on devait donner un petit peu à voir avant d'entendre tout à l'heure un extrait, Étienne. Ou Annick.
Ouais, moi c'est pas facile pour moi de définir. J'ai l'impression qu'il y a à travers les différents morceaux, il y a des styles musicaux un peu différents. Il y a peut-être certaines chansons qu'on pourrait qualifier de chansons réalistes, d'autres qui seraient beaucoup plus poétiques. Il y a un texte qui se rapprocherait presque du slam. Donc c'est surtout les mots qui sont venus colorer. Quand Étienne a composé, il s'est vraiment inspiré de des mots, des phrasés, des rythmes.
Ouais.
Et ça donne des couleurs un peu différentes au fil du spectacle. Et ça oscille entre la voix parlée et la voix chantée.
Étienne ?
Musicalement, j'étais influencé par plein de musiques en fait. Ça va aussi bien des musiques classiques, des musiques de jazz, des musiques des chansons réalistes comme parlait Annick, des chansons à texte beaucoup plus profondes. Il y a un mélange de plein d'univers musicaux différents. Ça c'était la patte que j'ai apportée au spectacle sur les magnifiques textes de d'Annick, et je pèse mes mots vraiment. Donc c'était ce travail là en fait de Annick avait déjà quelques mélodies sur certains textes. Certains je les ai gardés, d'autres j'ai proposé autre chose, ça me paraissait plus pertinent, voilà. Et puis après moi j'ai apporté mes arrangements qui me semblaient appropriés à la poésie d'Annick, voilà. Et du coup, ça a fait ce joli répertoire, je pense, humblement.
Et c'est exactement ce que je venais chercher en sollicitant Étienne. C'est-à-dire que je connais par ailleurs son travail, ses compositions, sa sensibilité. Donc je savais que je faisais le bon choix en allant chercher Étienne.
En tout cas, nous, on est impatients d'avoir un premier aperçu tout à l'heure dans l'émission Topette. Juste avant, on va passer un l'instant ciné avec Sandra, puis après, on retourne vivre avec Vivant, Étienne et Annick.
Topette, l'instant ciné.
Bonsoir Sandra.
Hello. Aujourd'hui, je vous parle de cinéma d'animation japonais et plus précisément du réalisateur Hayao Miyazaki et son sixième long métrage Porco Rosso. Car, aux joies, au bonheur, cette pépite est diffusée ce jeudi 11 avril en VOST au Cinéville des Ponts de Cé. Cette soirée spéciale, dans le cadre du cycle Japanimation, commencera dès 20h dans le hall du cinéma, avec une expo et un point de vente de la librairie Azu Manga. Puis, à 20h30, l'association Les Désangevins proposera un quiz en salle avant la projection. Donc, hop hop hop, petite contextualisation pour vous mettre dans le bain. Vous avez forcément déjà entendu parler de Hayao Miyazaki, le représentant le plus connu en France du cinéma d'animation japonais et cofondateur, aux côtés d'Isao Takahata, du studio Ghibli. Parmi les chefs-d'œuvre les plus célèbres du maître, citons par exemple « Mon voisin Totoro » ou « Le voyage de Chihiro ». Là, ça vous parle. Moins connu, Porco Rosso, datant de 1992, réunit beaucoup des aspects les plus emblématiques de l'univers de Miyazaki. On écoute la bande-annonce française de l'époque.
L'imprévu, le danger, le vertige lui donnent des ailes. Avec son hydravion rouge-feu, il sillonne les airs de l'Adriatique. Voici Porco Rosso, un pilote de légende. C'est un chasseur de primes. Il interviendra où vous lui demanderez, mais attention, c'est lui qui fixe le prix et la méthode. Porco Rosso, ne lui marchez pas sur les ailes, ne lui froissez pas le fuselage.
On va leur faire une petite surprise.
Il a un caractère de cochon, et pourtant, c'est un drôle d'oiseau, Porco Rosso. Tendre avec les dames.
Oh, il y a des choses qui ne se disent que dans l'intimité.
Il peut cogner comme John Wayne et avoir le sourire de Bogart.
Ah, les années 90.
J'adore mon annonce. Le film installe son intrigue dans l'Italie de la fin des années 1920 et suit les péripéties d'un ancien pilote de l'armée royale reconverti en chasseur de primes aux prises avec des pirates déserts. Ai-je mentionné que notre héros a une tête de cochon au sens propre? Précisons que cet anthropomorphisme, métaphore représentant le traumatisme d'une guerre trop meurtrière et la perte de foi de notre protagoniste dans la nature humaine, est le seul élément fantastique de ce récit qui est avant tout ancré dans un contexte historique réel, celui de l'entre-deux-guerres au moment de la montée du fascisme mussolinien. On sait Miyazaki résolument pacifiste et anti-militariste, Porco Rosso est clairement un réquisitoire contre la guerre et ses absurdités, faisant ainsi écho à d'autres films du cinéaste tels que Nausicaä ou Princesse Mononoke. Cependant, vous l'aurez peut-être perçu dans l'extrait, si ces circonstances instillent des passages empreints de profondeur ou de mélancolie, Porco Rosso est d'abord un film d'aventure rocambolesque, à l'humour potache, à l'instar de ses brigands totalement extravagants. On y retrouve un peu l'esprit burlesque de Cagliostro ou du Château dans le ciel. Le ciel, justement, autre grand sujet du film, cher au réalisateur passionné d'aviation depuis son enfance, normal avec un papa qui travaillait dans l'aéronautique. Il rend d'ailleurs hommage à l'histoire des machines volantes à travers le nom qu'il a donné à son studio, Ghibli renvoyant entre autres à un avion de reconnaissance italien de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que dans plusieurs de ses longs métrages, et particulièrement Le vent se lève, qui sera lui diffusé au Cinéville le 16 mai. Une autre caractéristique du monde animé de Miyazaki, qu'on retrouve dans Porco Rosso, c'est la représentation de la nature et le soin tout particulier apporté aux décors et aux paysages foisonnants et colorés. Ils sont le reflet de la préoccupation écologiste du cinéaste, criante par exemple dans Ponyo sur la falaise. Un mot enfin sur les rôles féminins, toujours importants dans la filmographie du Nippon. Face au sexisme ambiant, Gina et Fio, a priori aux antithèses l'une de l'autre, ont des caractères bien trempés et portent toutes deux la mesure et l'apaisement face à la violence et la bêtise des hommes. Bref, Hayao Miyazaki nous propose là une petite perle enjouée et réjouissante, pleine de fun et de rebondissements. Perso, je trouve aussi ce charmant opus d'une grande beauté visuelle, et cela force mon admiration de savoir qu'il a été entièrement dessiné à la main, ce qui donne une ligne claire et des couleurs d'une grande puissance. Ce n'est pas pour rien que le film a été récompensé du Cristal du long métrage au prestigieux Festival international du film d'animation d'Annecy. Des combats aériens spectaculaires, une musique virevoltante, des personnages pleins de fantaisie, des peintures de ciel à couper le souffle, voilà de quoi se régaler. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux conseils ciné.
Merci beaucoup. Sandra, tu connaissais toi Porco Rosso, Matteo ?
De nom, malheureusement, j'ai pas pu le voir.
Ah, malheureusement. Bah voilà, ce sera
l'occasion. Rattrapage demain soir.
Demain soir, 400 coups, c'est ça ?
Non, au Cineville, au Pont de C.
Voilà, bah je réécouterai la chronique pour avoir les infos justes. En tout cas, j'espère que vous les avez bien notées. On retourne avec Vivant. Avec toi, Annick, et toi, Étienne. Du coup, Étienne à l'accordéon, Annick à la voix, au texte. Et puis, du coup, forcément, si Étienne était à l'accordéon, c'est lui aussi qui a composé les musiques. Ce que je propose, peut-être, c'est de... On va avoir un petit extrait. Est-ce que vous avez une idée de ce... Ouais. Duquel on va faire ? Et puis, peut-être, nous expliquer, nous donner un petit peu de contexte sur ce texte, son histoire, son origine, Annick.
Eh bien, ce texte, il fait partie de ceux que j'ai écrits une fois qu'on avait commencé la création, le travail. Ça s'appelle Encore être, encore notre corps.
Être comme là.
Être. On peut voilà jouer sur les mots. Encore être. Et alors, c'est une chanson qui est plutôt dans le début dans la première partie du spectacle et qui dit bien de cette envie de reliance, de ressemblance, de communication, de communion avec les autres êtres vivants.
Et alors là, on est plutôt sur une partie un peu chantée ou plutôt...
C'est chanté.
C'est chanté. L'accordéon s'est éloigné du micro. Normalement, on devrait bien t'entendre, Étienne. Enfin, on devrait bien entendre l'accordéon. Je sais pas, on peut...
Vous nous faites des signes si c'est trop fort.
Voilà, on te dira de reculer si jamais vraiment ça casse les oreilles. Mais je ne pense pas. On n'est pas en extérieur, mais on a laissé la fenêtre du studio ouverte. Comme ça, on a le bruit des oiseaux qui peut aussi nous accompagner. Il y aura peut-être une ou deux voitures, hein, parce qu'on est quand même à Angers. Et ben, on vous applaudit, puis on écoute ça sur le 101.5 FM.
Encore être comme un arbre, à tout le vent façonné, à tout le temps conjugué. Encore être comme un arbre, à tout le vent façonné, à tout le temps conjugué. Il germait, j'étais jouir, ma mère amandait, racinait, s'était bridée. J'en reste pour choisir. Encore être comme un arbre, à tous les vents façonnés, à tous les temps conjugués. Encore être comme un arbre, à tous les vents façonnés, à tous les temps conjugués. Il se dresse, je m'étire, mes os debout me tiennent droite, la tête haute, les pieds dessous, je suis arbre, le désir. Encore être comme un arbre, à tous les vents façonnés, à tous les temps conjugués. Encore être comme un arbre, à tous les vents façonnés, à tous les temps conjugués. Circule, je respire, mon sang en veine va droit au cœur dans les artères. Il s'oxygène, je suis sève de plaisir. Encore être comme un arbre, à tous les vents façonnés, à tous les temps conjugués. Encore être comme un arbre, à tous les vents façonnés, à tous les temps conjugués. Ils se tendent et j'étire mes muscles rouges dans le mouvement, le déploiement. Le geste, il bouge, je suis danse, le zéphyr. Encore être comme un arbre, à tous les vents façonnés, à tous les temps conjugués. Encore être comme un arbre, à tous les vents façonnés, à tous les temps conjugués. Il se pose et j'admire mes yeux en fleurs iris ouvertes sur l'herbe verte, le ciel azur. Je regarde pour élargir. Encore être comme un arbre, à tous les vents façonnés, à tous les temps conjugués. froid. Je vais pas mentir, mon corps figé dans l'éternelle matière fidèle. Seul nourricier, je serai bonne à
incroyable. Vous êtes bien l'écoute de Topette. On n'est pas en train d'écouter qu'est-ce que vous me chantez là, même si ça pourrait coller avec la programmation de Michel Boutet. Alors, c'est issu encore être du spectacle Vivant qui sera en tournée dans quasiment toutes les bons villages, les bonnes places de village de l'Anjou. Citons par exemple la première date, le 21 avril, le domaine d'Olyssin-Prouillé, c'est à Longue dans l'Anjou. Et la dernière, ce sera le 22 septembre, la Clé des Landes à Séran. Bah, c'est dans le 56 en plus, et même bon, on va beaucoup plus loin. Toutes les infos pratiques, on les redonne tout à l'heure. Mais avant tout ça, parce que Sandra et Paul s'étaient mis à danser en studio, et Paul justement, il va se rasseoir pour pouvoir nous présenter la Minute Sport de Topette.
La Minute Sport de Topette.
Bonsoir Paul.
Bonsoir Pierre-Benoît, bonsoir à tous. Le départ surprise du coach de l'EAB, celui moins étonnant des Ducs d'Angers. Le derby pour Angesco et la ville se met à l'heure olympique. C'est parti pour votre nouvelle dose d'actualité sportive autour d'Angers. Bienvenue dans la Minute Sport. C'est l'information surprenante de ces derniers jours. Ali Bouziane, le coach de l'Étoile Angers Basket, a quitté son poste d'entraîneur de l'équipe de Pro B. Un communiqué de presse du club est tombé ce mardi 9 avril midi. C'est une décision quelque peu étonnante alors que ses joueurs avaient encore 6 matchs de saison régulière à disputer, et notamment une rencontre contre Nantes le soir même, hier donc, match qu'ils ont perdu lourdement 111-67. Le club inscrivait dans son communiqué, je cite, « Ali Bouziane a fait part de sa volonté de s'engager avec le club de Denain-Voltaire, ce qu'il considère comme une opportunité professionnelle qu'il ne peut laisser passer », fin de citation. Denain, le club avec lequel l'ex-coach angevin va s'engager, est lui aussi un club de Pro B comme le AB, et alors ce qui est assez rigolo, c'est qu'Angers jouait vendredi dernier contre Denain, justement, et ils ont gagné Angers 82-71. D'ailleurs, en hockey sur glace, les Ducs d'Angers viennent eux aussi de se séparer de leur entraîneur Jason O'Leary, arrivé sur les bords de Maine en 2023. Un évincement qui fait suite à la fin de saison ratée des Angevins, éliminés dès les quarts de finale des phases finales, alors qu'ils avaient un effectif taillé pour le titre, probablement même l'un des plus costauds de leur histoire, sur le papier en tout cas.
Et Paul, on passe au football puisqu'Angesco affrontait son meilleur ennemi.
Tout à fait, samedi en Ligue 2 de football, Angesco recevait le Stade Lavallois pour un derby, pour le derby même. Pour l'occasion, le Stade Raymond Coppa était à guichet fermé, ce qui depuis la descente en deuxième division est assez rare pour être souligné. Et pourtant, les 18 700 spectateurs ont rapidement été refroidis par l'ouverture du score de Laval dès la troisième minute de jeu. Les Angevins ont finalement égalisé longtemps après à la 87e minute. Score final 1 partout. Les Noirs et Blancs descendent à la troisième marche du podium derrière Auxerre et Saint-Étienne. De retour en basket, c'était une rencontre à enjeu ce week-end pour l'Union féminine d'Angers. Tout simplement le dernier match de la saison régulière, décisif, car les places dans le top 8, synonyme de play-off, se disputaient au coude à coude avec Charleville-Mézières et Tarbes. Les joueuses d'Aurélie Bonan se sont imposées justement face à Tarbes, 71-66 à domicile, et assurent leur ticket pour les play-offs pour la troisième année consécutive.
Et ça va chauffer maintenant dans les rues d'Angers, enfin prochainement.
Oui, l'été 2024 s'annonce déjà comme un été historique niveau chaleur, sécheresse, canicule. Mais la température va aussi monter à Angers avec le passage de la flamme olympique sur les terres du roi René le 28 mai. Le parcours a été dévoilé le vendredi 5 avril dernier par la ville. La flamme partira du parc Balzac, empruntera l'avenue Pasteur, le quai des Carmes, la place du Ralliement évidemment, fera un tour par l'hôtel du département, puis elle redescendra vers la place de la Rochefoucauld où elle terminera son trajet par l'allumage du chaudron. olympique. 6 km seront avalés par 30 porteurs. De nombreuses activités seront également présentes en parallèle pour célébrer cette journée. Des animations seront notamment accessibles sur 3 villages consacrés respectivement à l'athlétisme, les cultures urbaines et les parasports. Dans le reste de l'actualité, en hockey, les Hawks d'Angers se sont inclinés à domicile face à Caen. Un match totalement fou dans lequel les Angevins ont d'abord concédé 3-0 à la pause, puis ils sont revenus à remonter à 4 partout à la fin du temps réglementaire. Et à la toute fin des prolongations, Candelier, chez Angers, pensait marquer le but de la victoire. Puisque ce qui est dingue, c'est que pendant que les joueurs étaient en train de faire la fête avec les supporters en tribune, les arbitres les ont rappelés pour rejouer les dernières secondes du match, invalidant le but angevin suite à une erreur de la table de marque. Et c'est finalement Caen qui s'est imposé au tir au but. Voilà pour ce petit tour de l'actualité sportive autour d'Angers et à très vite pour une nouvelle Minute Sport.
Merci beaucoup Paul, on était en sport avec toi. Bon, on va y retourner, mais cette fois-là avec toi Mathéo. Mathéo qui va nous emmener dans le désert, je crois.
18h10, 19h, Topette sur Radio G.
Trek Zone, c'est la plus grande course d'orientation du monde, réunissant 90 candidats répartis dans 30 équipes pendant 6 jours. La première saison de cette dernière se déroule du 20 au 26 octobre 2024 au Sahara. Parmi les équipes qui y participent, une sera angevine, elle se nomme le Désert Angevin. Dans ses rangs, Dylan, Thomas et Julien, trois étudiants en école d'ingénieur à Angers. Ils sont tous les trois avec nous aujourd'hui afin de nous présenter ce projet. Bonsoir les gars.
Bonsoir. Bonsoir.
Expliquez-nous ce qu'est cette course d'orientation. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement pendant 6 jours?
Comme son nom l'indique, ça va être une course d'orientation. Donc une carte, une boussole, et c'est parti au milieu du désert pour la conquête de différents checkpoints. Et donc à l'arrivée, il y aura un classement des différentes équipes, et l'équipe qui terminera première au classement général remportera la cagnotte finale.
On a 90 candidats, j'imagine qu'il y a des favoris, des personnes plus expérimentées. À 7 mois de la course, dans quel état d'esprit est-ce que vous vous positionnez, Dylan?
Nous on est en pleine préparation, en sachant aussi que dans cette course d'orientation est invité quelques personnalités de Koh-Lanta et Pékin Express, dont on n'a pas encore les noms, mais ça motive encore plus. On a notre entraîneur, Julien, du coup, qui nous prépare un plan d'entraînement au long terme.
Et c'est quoi ce plan d'entraînement, Julien? Dis-nous en plus.
Ça va être beaucoup de courses à pied, car c'est quand même 6 jours d'épreuve dans le désert, avec pas moins de 16 km par jour. Donc ça fait presque 100 km quand même à faire dans le désert, donc un environnement qui est hostile, va faire très chaud. Donc il va falloir qu'on soit vraiment bien préparé, donc soit physiquement, mentalement aussi. Et puis ça va être donc beaucoup de courses à pied et de musculation pour être prêt le jour J.
Et comment ça se passe avec les autres 30 équipes? Du coup, vous avez tous le même point de départ ou vous allez être positionnés à des endroits différents?
Alors ça, c'est un petit point qu'on n'a pas encore connaissance. C'est-à-dire que Trek Zone, c'est les organisateurs de cette aventure. Ils ont, pour le moment, on n'a pas encore de communiqué sur même les déroulés des épreuves. On sait que chaque jour, on va devoir partir d'un point A pour atteindre un point B. Et entre ce point A et le point B, on va devoir atteindre des checkpoints, trouver des différents objectifs à réaliser tout au long de la journée. Maintenant, on n'a pas plus de visibilité que ça sur notre relation avec les autres équipes, ni même sur le soir, arriver sur place. Enfin, on n'a pas spécialement, même on ne sait pas si ça va être des départs décalés ou non au final. On n'a pas vraiment de connaissance de tout ça. Voilà, pour le moment, c'est vraiment concentré sur la préparation, que ce soit physique, s'entraîner sur les courses d'orientation également, mais aussi sur la recherche de partenariats et de sponsors, parce que sans ça, aujourd'hui, on peut pas partir. Donc, pour le moment, c'est ça la priorité. Et puis, ils nous donneront les informations bien assez tôt.
Et ça se passe comment à ce niveau-là au niveau des sponsors? On est aujourd'hui à 7 mois de la course. Ça se profile comment de votre côté?
Nous c'est particulier parce que en tant qu'étudiant en école d'ingénieur, on doit effectuer une mobilité à l'international dans le cadre de nos études qui va se dérouler donc juin, juillet, août. Donc ça veut dire que pendant 3 mois, on sera tous les trois pas là pour faire notre recherche de sponsors. Donc nous c'est un double enjeu parce que ça veut dire que nos sponsors et nos partenaires, on doit les trouver avant juin. Du moins les 80% de nos sponsors. Donc c'est plutôt compliqué. On effectue pas mal de démarchages auprès de ces différentes entreprises. Voilà, on tâtonne un petit peu parce qu'au final, je trouve que c'est un vrai métier qu'on apprend sur le tas, au final. Et puisqu'on a quelques mois d'avance par rapport aux autres équipes, parce que on est obligé, par obligation, c'est d'autant plus dur parce que on doit tout apprendre tout seul, même si TrekZone nous drive plutôt bien. Les conseils qu'ils nous donnent, pour nous, c'est un petit peu tard.
Pour convaincre ces sponsors, j'imagine que justement vous utilisez justement le défi, peut-être autre chose. Est-ce qu'il y a d'autres convictions derrière ce projet, Dylan? Je me tourne vers toi.
Eh bien oui, l'objectif pour nous faire connaître, notamment, ça va être pourquoi pas organiser des événements avec la ville d'Angers. Aussi... on essaye de viser, de commencer par viser des plus grosses entreprises qui peuvent nous aider à la fois financièrement et aussi en matériel pour l'événement.
Après, on a aussi on a créé des réseaux sociaux, avec Instagram, Facebook, qu'on tient à jour, donc on parle de nous, on parle aussi de la course d'orientation, et on a aussi également créé une cagnotte Litchi sur laquelle du coup les participants peuvent nous aider. En donnant de leur plein gré, donc la cagnotte ici c'est le désert angevin. Voilà, c'est tout simple, tous nos réseaux c'est le désert angevin. Et donc on est en train également de contacter différentes entreprises, donc notamment un boucher charcutier et le château de Briassé, qui nous aident en fait à réaliser des ventes particulières, donc des ventes de vin, des ventes de saucissons et des ventes de tout un tas de choses, voilà, pour générer de l'argent, pour pouvoir se préparer pour cette aventure.
Et comme tu le disais, Thomas, vous participez à cette course sous le nom du Désert Angevin. Vous avez pris ce nom exprès pour l'événement, Julien ?
Oui, mais aussi pour, pourquoi pas, vu que c'est une toute nouvelle aventure, il prévoit de faire d'autres saisons, donc dans le désert marocain, mais aussi dans les Alpes. Et donc, pourquoi pas, avec ce nom d'équipe, faire d'autres aventures à l'avenir si on performe sur celle-là.
Ouais, l'objectif, c'est de créer un projet encore plus grand que celui qui est là aujourd'hui.
Oui, tout à fait.
Pourquoi pas.
Et du coup, ça vient de quoi ? Enfin, elle vient d'où cette idée concrètement ? Parce que c'est vrai que vous êtes en école d'ingénieur. On pourrait se dire, c'est peut-être pour leurs études. C'est quoi ? C'est une passion pour vous ?
On est tous les trois grands sportifs. Donc, on aime beaucoup le sport. Et là, c'est vraiment un énorme défi sportif qui se propose à nous. Défi sportif et humanitaire, car on aura aussi une partie humanitaire sur place. Mais ouais, c'est vraiment le côté sportif de dépassement de soi. C'est quand même 6 jours dans le désert, c'est pas rien. Et ça nous fait tous envier de s'aventurer comme ça à l'aventure dans un domaine qu'on ne connaît pas.
Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette partie humanitaire, justement, ça m'intéresse.
Alors, sur la partie humanitaire, donc on va venir en aide à des écoliers dans le désert. Donc un peu comme 4L Trophy le fait, on va ramener 20 kilos de matériel. Donc matériel scolaire ou corps matériel sportif, pour venir en aide justement aux écoliers du population locale.
Et donc ça, c'est dès le départ du projet.
En fait, il y a trois missions principales. Donc ils appellent ça des actions solidaires. Donc toutes les actions solidaires seront réalisées le 7e jour. Donc en fait, on a 6 jours de course. On se préoccupe uniquement de notre course. Et une fois que l'épreuve de la course d'orientation est terminée, la dernière journée, elle est consacrée aux actions solidaires. Il y aura une action qui consiste à venir en aide aux enfants, aux familles, en leur apportant du matériel scolaire, santé, sportif, de ce style-là. Une autre action qui va consister à effectuer un repas solidaire, donc avec les populations locales, pour justement entretenir les échanges, pour pouvoir faire du partage d'expériences, etc. Et une troisième action, ce sera d'effectuer des plantations de palmiers dattiers pour venir en aide aux agriculteurs locaux et pour lutter contre la désertification.
C'est important pour vous justement de lier votre passion, le sport, la marche à l'humanitaire. C'était une vraie envie de votre côté, Dylan ?
Oui, totalement. Alors, au-delà de l'aspect sportif qui nous a beaucoup attirés, c'est vrai que quitte à avoir la chance de partir à l'étranger, découvrir d'autres cultures, pourquoi pas au passage aider les populations locales, ça fait une pierre de coup, j'ai envie.
Et comment elle a germé cette idée dans votre esprit, vous êtes réunis un soir comme ça, vous vous êtes dit on va participer au TrekZone.
C'est une association de l'école, l'Entraid, qui promeut des projets comme ça humanitaires sportifs, comme le 4L Trophy ou Europred. Et ils faisaient la pub justement de TrekZone, car c'est la toute première édition.
Et on a directement dit, ah ouais, c'est quand même un gros projet. Et Thomas a lancé l'idée et nous, on l'a suivi dedans, quoi.
Et ce sera quoi concrètement la suite après? On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que vous avez vraiment d'autres projets aujourd'hui de concrets que vous voudrez faire juste après ce Trek Zone?
Pour le moment, pas tant que ça. Pour le moment, en fait, faut aussi recadrer les choses dans le sens où on se connaît que depuis septembre. On est tous les trois arrivés en septembre dans la même école et on a appris à se connaître. Et voilà, c'est vrai que, bon oui, effectivement, c'est moi qui ai vu les affiches en premier et qui ai proposé cette épreuve à du coup Dylan et Julien, mais si je l'ai proposé à eux, c'est pour deux choses. La première, c'est que le fait qu'on soit dans la même école, on se découvre un petit peu, c'est une bonne chose pour pouvoir créer du lien, je trouve. Et la deuxième chose, c'est que on est là pour gagner. Enfin, c'est à dire que Trek Zone, il y a 30 équipes, sur ces 30 équipes il va y avoir de tout. Notamment, il y a une des équipes qui vient uniquement parce que ces trois femmes qui ont été atteintes du cancer et font cette épreuve pour un but vraiment du loisir, pour se prouver peut-être quelque chose à elles-mêmes, je sais pas. Donc il va y avoir de tout. Et nous, en fait, on est là pour aussi on veut performer sur cette aventure. Donc il y a aussi cet enjeu-là. Donc c'est pour ça qu'on se prépare aussi bien physiquement. Et donc il y a aussi l'aspect environnement, parce que c'est aussi une des spécialités de notre classe. On est en gestion des risques et de l'environnement. Et donc cet aspect avec les actions solidaires, le désert, l'environnement, c'est un mix en fait de plein de choses qui nous parlent énormément. Donc pour le après, on est ouvert à tout. Mais c'est vrai que pour le moment, c'est notre premier projet, donc on a envie de bien faire.
C'était un lien facile à réaliser en réalité. Et vous avez un plan aujourd'hui pour gagner? J'imagine que vous avez beaucoup réfléchi à la chose. Qu'est-ce que vous allez réaliser sur place pour pouvoir empocher cette cagnotte et puis gagner, quoi?
Déjà, il va falloir tout miser sur la préparation, quoi. Parce que pour le moment, on ne sait pas trop comment ça va se passer sur place. Donc autant aujourd'hui se donner au maximum et tout donner jusqu'au jour J, hein. Mais sur place, on va vraiment essayer de faire un bel ordre des choses, c'est-à-dire chacun aura sa mission, vu que c'est quand même une course d'orientation. Chacun aura sa part à faire pour qu'ensemble, on gagne l'épreuve.
Et comment est-ce qu'on fait pour vous soutenir? J'ai vu qu'il y avait une cagnotte Litchi. On peut également vous suivre sur les réseaux sociaux. C'est quoi? Dites-nous en plus.
Donc sur Instagram, Le Désert Angevin. Sur Facebook, Le Désert Angevin. Car vraiment, on s'est appelé Le Désert Angevin partout pour que ce soit vraiment très simple pour les gens de nous suivre sur nos réseaux.
Et vient d'où ce nom? D'ailleurs, je vous ai pas demandé, c'est pour la course ou... Enfin oui, il vient d'où ce nom?
Il vient d'une célèbre phrase à Angers, qui est la douceur angevine. Donc on s'est adapté au désert en se nommant Le Désert Angevin.
Avant de clôturer cette interview, est-ce qu'il y a d'autres actualités vous concernant ou d'autres sujets dont vous aimeriez nous parler?
C'est vrai que... vous avez parlé pour nous soutenir, comment on pouvait faire. Ce message s'adresse surtout aux auditeurs de Radio G. C'est vrai que nous, on recherche des partenaires, que ce soit financier, que ce soit matériel. Tout type d'aide est la bienvenue. Donc, que ce soit en nous fournissant des lots pour ensuite réaliser des concours, des tournois, des événements, nous, ça va nous grandement nous aider. Que ce soit financièrement pour en devenant notre sponsor, tout est possible aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à nous contacter sur Instagram. Je pense que on est assez, c'est facile de nous contacter, surtout sur nos réseaux. Après, si vous voulez nos numéros, c'est assez simple. Aujourd'hui tout est ouvert. On a aussi un maillot des sponsors qu'on est en train de réaliser, qu'on aura le jour de l'événement. Donc si vous voulez devenir notre sponsor et être affiché sur l'événement, c'est avec grand plaisir. Il y a une dernière chose, je pense qu'on n'en a pas parlé. Donc Trek Zone, ce sera diffusé sur Twitch et YouTube, donc en octobre, sur les chaînes de Aventure Red. On fera tout au long de notre préparation des posts Instagram et des stories pour justement vous prévenir de tout ça. Mais je trouve que c'est important de le mentionner parce que vous pourrez nous suivre en direct et avec des récaps sur YouTube. Et ça, c'est plutôt cool, je pense.
C'est ça, ça va être sympa de vous suivre. Nous, on suivra ça de très très près. Pour rappel, donc, on peut vous soutenir via vos réseaux sociaux, via une cagnotte Litchi également, et on vous souhaite bonne chance pour cette course du 20 au 26 octobre prochain. Merci d'avoir pris ce temps.
Merci.
Merci à vous de nous avoir reçus.
Merci beaucoup Mathéo. Mathéo qui quitte précipitamment le studio, mais rassurez-vous, nos invités sont encore là. On est toujours avec Annick et Étienne pour parler de Vivant. Alors peut-être, on va se faire un petit plaisir, Annick. On va avoir le droit à un deuxième extrait du spectacle, justement. Est-ce qu'on s'est concerté pendant ouais. l'interview de Mathéo? On va faire quel titre?
On va vous chanter Dans le jardin de Nantes, une chanson que j'ai écrite littéralement allongée sur un banc. Dans le jardin des plantes, le magnifique jardin des plantes de la ville de Nantes, il y a quelques temps de ça.
Ça commence pas dans le jardin. Non, c'est pas comme dans les prisons de
ça
Nantes.
Ça commence par dans le jardin de Nantes. D'accord. Mais pas sur le même air.
Pas sur le même air. Peut-être pas les mêmes notes d'accordéon non plus. Donc on pourra l'entendre tout à l'heure. Mais avant, il y avait encore peut-être des choses. On a vaguement survolé les dates. Peut-être il y a des partenariats, des rendez-vous forts aussi, des soutiens peut-être autour du spectacle Vivant. Étienne, Annick.
Ouais, tout à fait. Ce spectacle, il rentre dans la programmation des rendez-vous nature en Anjou de la saison 2024 qui a démarré là en mars. Et donc nous, on est accueillis dans 5 espaces naturels sensibles du département. Donc le département lui-même est un de nos partenaires dans ce cadre-là. Et puis les communes ou les propriétaires qui sont là où sont les espaces naturel sensible aussi, nous accueillent, nous reçoivent, organisent avec nous les représentations. Donc ça, c'est des beaux rendez-vous qui sont en plus gratuits pour le public. Il faut juste pas oublier de réserver. Donc il y a un petit site dédié pour ça, rendez-vous nature en Anjou.
Et si jamais on veut s'informer sur l'ensemble des autres dates pour le spectacle Vivant, mais aussi les autres spectacles proposés par la compagnie à travers champs, au travers toi, Annick, principalement, il y a un site internet peut-être, ou même Étienne, tu as peut-être des réseaux sociaux. On commence par à travers champs peut-être, Annick?
Alors effectivement, la compagnie à travers champs, c'est simple, c'est www.atraverschamps.org. Il s'agit bien des champs de fleurs, des champs de plantes.
Même si là,
et là, il y a une rubrique agenda et je l'actualise, je la mets à jour. Vous avez toutes les infos, y compris les liens pour réserver.
Et de ton côté, Étienne?
Et puis on est sur Facebook aussi.
Sur Facebook?
Voilà, Annick Sébron ou Étienne Boidron. Moi, j'ai un site aussi personnel, etienneboidron.com, sur lequel il y a toutes les infos aussi possibles. Donc, on est capable de trouver tout ce qu'on veut sur Internet concernant Vivant. Voilà.
Et ben voilà, toutes les infos pratiques sont données. Nous, on se donne rendez-vous demain à 18h10. Mathéo va pas pouvoir dire topette parce que il est parti. Et puis de toute façon, on va se quitter de manière un peu plus originale. Tu veux le dire, Sandra, c'est ça, topette?
Ah bah oui, topette les gens.
Topette, et on se quitte donc, on part d'Angers, on va dans le jardin de Nantes. Sur le 101.5 FM, c'est un extrait du spectacle Vivant, Annick et Étienne. On vous applaudit quand même pour les encourager.
Merci à vous.
Merci beaucoup. Le jardin de Nantes, à la cime des arbres, le ciel change de couleur, la lumière coupe les branches et les pelouses vertes passent du vert au vert. Sans aucune pudeur, les sirènes de la ville sont derrière les murs, et plus haut que les murs, les grands arbres s'échappent. Nos yeux quittent un moment le sol où rien ne dure. Au-delà des rumeurs, le vent alors m'emporte, loin de moi-même morte, comme les feuilles de cet automne-là. Sur le banc, je me vois. Sur le banc, je m'allonge et plonge mon regard dans l'entrelac des branches d'un tulipier géant, le roulis des chevaux sous les capots de tôle berce le temps qui passe dans le jardin de Nantes, paisible et tourmenté. Dans le fond de mon cœur, à Hambourg ou ailleurs, c'est partout en même temps le rythme végétal. Je sombre dans l'oubli. Le vent alors m'emporte, loin de moi-même morte, comme la
sur le banc je me vois. Comme les feuilles de cet automne-là.